Vous êtes sur RTL.
9 éditions.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
C'est parti pour Laissez-vous tenter. Nous allons tout de suite retrouver Monique Younes qui nous emmène ce matin visiter en avant-première l'exposition Soleil Noir qui ouvre ses portes mercredi au Louvre-Lens. De quoi s'agit-il, chère Monique ?
Alors, de quoi le noir est-il le symbole ? Vaste question. Pour certains peintres, vous savez, le noir est synonyme de la nuit, des orages, avec son lot d'inquiétudes et de peurs. Pour d'autres, c'est la couleur du romantisme. Les rencontres amoureuses se font au tomber du jour. Mais pour peindre le noir, il faut, comme vous savez, de la lumière. Très peu, mais là où il faut. La nuit, on éclaire les personnages ou les paysages avec des lanternes ou avec la lune. Et parmi les 180 chefs-d'œuvre exposés au Louvre-Lens, vous verrez le tableau d'Alexander Harrison intitulé « La solitude ». Il fait nuit. Un jeune homme nu, de dos et debout sur sa barque qui glisse sur l'eau. Seule la rame est éclairée par un rayon de lune. Ce tableau très cinématographique date de 1893, autrement dit en pleine gestation du 7e art. Et cette œuvre a beaucoup inspiré Marie Lavandier, la directrice du Louvre-Lens.
C'est un tableau que j'ai beaucoup aimé, à vrai dire, commenter pendant la période du confinement, parce que je trouve que, et dans sa beauté, et dans ce qu'il exprime, il allait bien avec la période. Cette figure qui met les mains derrière la tête et qui glisse sur cet espace immense, ça peut aussi, au-delà de la solitude, être une représentation de la liberté, du bonheur de se retrouver dans la nature, de pouvoir piquer une tête dans l'eau noire. Et là encore, je trouve que c'est important dans la période qu'on a traversée, de se rappeler que dans les moments les plus sombres, il peut aussi y avoir de la vie et parfois même de la joie.
Alors vous m'avez soufflé que le noir était la couleur de toutes les contradictions.
Mais de tous les paradoxes aussi.
Oui.
Isis et Osiris sont présents au Louvre-Lens pour nous rappeler que dans l'Égypte des pharaons, le noir était la couleur de la vie qui jaillit des limons du Nil. On appelait d'ailleurs ce vaste territoire la Noire. Alors qu'en Occident, il en va différemment. Le noir a été d'abord associé aux enfers, aux sorcières, à la couleur du deuil, les gravures de Gustave Doré, les dessins d'Odile Longredon, notamment son araignée fantastique, en témoignent abondamment et vous les verrez tous au Louvre-Lens.
Certes oui, mais le noir est aussi la couleur de l'élégance.
Mais oui, tous les grands couturiers ont utilisé des étoffes de couleur noire pour réaliser des vêtements luxueux. Et dans la partie de l'exposition consacrée à la mode, il y a des robes de Jeanne Lanvin, de Yoji Yamamoto, entre autres, qui font le contrepoint de portraits d'élégantes des siècles passés, comme la sublime Dame au gant de Carolus Duran, l'énigmatique Berthe Morisot peinte par Manet, ou encore la femme avec l'enfant et chien de Véronèse. Et la commissaire de l'exposition, Juliette Guéprat adore le noir.
Alors, il faut savoir que le noir, c'est une couleur qui est très très difficile à obtenir en teinturerie. Et ce qui est difficile à obtenir est forcément cher. De fait, ce noir-là, quand il est représenté dans des portraits, atteste une certaine forme de noblesse et une certaine forme de richesse. Le noir, dans l'Europe protestante, aux Pays-Bas par exemple, c'est un noir de l'austérité, de la simplicité. Là où le noir de la cour espagnole, comme en atteste ce tableau-là qui représente un petit Habsbourg, on le reconnaît bien là, ce noir est beaucoup plus luxueux dans l'Europe du 16e, du 17e siècle.
Dites donc Monique, nous sommes à Lens. Le noir, c'est aussi la couleur de la mine.
Mais bien sûr, et le charbon est très présent dans cette exposition qui célèbre en quelque sorte le 300e anniversaire de la découverte de la première veine de charbon dans les Hauts-de-France. Et la dernière partie de l'exposition, plus concentrée sur l'art contemporain, montre des photos poignantes de mineurs au visage couvert de suie. Et vous verrez aussi la première sculpture molle de l'histoire de l'art. Elle est l'œuvre de Bernard Venet, réalisée à partir de 3 tonnes de charbon. Et parmi les icônes absolues de l'art moderne, il y a évidemment la croix de Malevitch, elle est là, et elle ouvre la voie aux outre-noirs légendaires de Pierre Soulages, présents à Lens en majesté.
Le slogan « On ira tous à Lens » lancé à l'ouverture du musée est donc toujours d'actualité.
Mais exactement, et puis vous savez, il y avait un autre slogan qui disait « Le Louvre-Lens, c'est le Louvre autrement ». Eh bien, on peut pas mieux dire. Le Louvre-Lens aura par certains côtés anticipé la crise actuelle, en mettant en place une politique de proximité avec son public. C'est un musée qui est vraiment impliqué dans sa région avec un accompagnement particulier des visiteurs. Et c'est tout le contraire d'un barnum touristique comme l'étaient devenus nombre de musées parisiens qui broient aujourd'hui du noir. Alors tous à Lens pour Soleil Noir à partir de mercredi.
Vive le Louvre-Lens. Merci beaucoup Monique Younes.
Moteur demandé. Action.
Alors voilà quelque chose d'essentiel qui nous manquait quand on parle de cinéma, les tournages. Bonjour Stéphane Boutier.
Bonjour à tous.
La plupart des films stoppés au début du confinement sont en train de doucement redémarrer.
Oui, il y en avait une vingtaine à l'arrêt depuis plus de deux mois et quasiment tous ont repris. Ce sera le 15 juin, tiens, par exemple, pour Les Tuches 4. Et c'est le cas depuis lundi dernier pour Adieu Monsieur Hoffman de Fred Cavaillé avec Daniel Auteuil, Gilles Lelouch et Sarah Giraudeau. Film d'époque qui se déroule pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il restait une dizaine de jours de tournage au réalisateur de Pourelle, Mea Culpa ou Radin, et l'ambiance était évidemment un petit peu particulière lors du retour sur le plateau.
C'est très spécial de s'arrêter comme ça, de faire un break de trois mois au milieu d'un tournage. Et on a des contraintes qui sont, c'est le cas de le dire, contraignantes, c'est-à-dire on va retrouver que la moitié de l'équipe. J'ai dû réécrire pas mal de choses pour pouvoir rentrer dans cette charte d'obligations sanitaires. C'est du plaisir, la joie de se retrouver avec l'équipe, parce que c'est un redémarrage et c'est comme si pour nous la vie reprenait, enfin en tous les cas refaire notre métier, réattaquer le film. C'est joyeux et en même temps je sens un peu d'anxiété. Je pense que ça va se détendre et on va y arriver.
Adieu Monsieur Hoffman se tourne jusqu'à la fin de cette semaine, notamment à Paris, à Montmartre, vous savez, où un décor de rue façon 1942 a été recréé pour l'occasion. On a tous vu durant le confinement les photos de ces boutiques comme figées dans un autre temps. Fred Cavaillé aussi, évidemment.
Moi, je ne l'ai pas très bien vécu parce que les titres étaient « Le décor abandonné », alors que ce décor n'a pas été abandonné, a été justement laissé en place pour pouvoir reprendre dans les meilleures conditions. Et c'est assez drôle parce que hier, le chef décorateur, qui donc a recommencé à construire le décor, me disait que les gens du quartier, quand il y a des choses qui se décollaient, les gens allaient les recoller. Ce décor est devenu mondialement connu et un peu le symbole du cinéma qui s'arrête et pour mieux reprendre, bien sûr. Et c'est vrai que je le dis maintenant en boutade, c'est-à-dire que ce décor est aussi connu que mon casting Daniel Auteuil, Sarah Giraudeau et Gilles Lelouch.
La sortie de Adieu Monsieur Hoffman de Fred Cavaillé était prévue en janvier prochain. Elle pourrait être retardée.
Alors, autre tournage qui lui va reprendre dans 4 jours maintenant, celui du film Envole-moi, réalisé par Christophe Baratier.
Oui, avec Gérard Lanvin et Victor Belmondo, une histoire de relation compliquée entre un papa médecin et son fiston désinvolte, le premier obligeant le second à s'occuper d'un jeune malade gravement atteint. Là, ça se passe à La Baule, en Loire-Atlantique, où Christophe Baratier, réalisateur, on le rappelle, des choristes ou de La Nouvelle Guerre des Boutons, prépare activement son retour derrière la caméra. Il lui restait 3 semaines pour tout mettre en boîte quand le film a été mis à l'arrêt forcé.
Parfois, c'est aussi une espèce de luxe, au fond. S'arrêter au bout de 5 semaines pour faire le point, ça m'a permis de faire un premier montage et d'affiner avec les comédiens notamment et en retravaillant le scénario pour ce qui reste à faire. Donc, pour la production, c'était difficile, mais c'est peut-être aussi parfois un bien, finalement, de vivre ce genre d'aventure.
Alors, là aussi, il va falloir se plier aux nouvelles normes. Distanciation, désinfection constante du plateau. Mais pour le film Envole-moi, les conséquences pratiques seront assez minimes.
Je n'avais pas de scène avec plus de 50 figurants, ce qui est le nombre à peu près qu'on nous laisse. J'ai la possibilité de conserver les distances propices aux contraintes. Donc, ça va. Je m'en sors parce que toutes les scènes qui me restent à tourner me permettent de totalement respecter les précautions nécessaires au tournage. Mais je connais beaucoup de mes pères et de mes confrères et des comédiens qui étaient dans une situation qui était pas loin du désastre. Et donc, c'est un vrai rapport avec la fragilité de notre condition, de notre statut, même si nous ne sommes pas les plus à plaindre. Mais finalement, voilà, si vous me dites la vérité, je serai sincère, voilà, je me suis senti fragile.
Pas de date de sortie encore pour Envole-moi. Christophe Baratier va enchaîner cet été à la mi-août en Provence sur son prochain film, l'adaptation du Temps des Secrets, 3e tome des Mémoires d'enfance de Marcel Pagnol, après évidemment La Gloire de mon père et Le Château de ma mère.
Merci beaucoup Stéphane. Je me disais qu'en effet, ça serait pas facile de retourner la chute de l'Empire romain.
Non, ça serait
maman, voilà, une petite jupette.
Moins d'esclaves.
Voilà, il faudrait un petit peu moins de... Et l'arrivée de Cléopâtre, donc Cléopâtre aussi. Vous voulez ajouter quelque chose, vous ?
En télé, plus 100 tournages ont été à l'arrêt. Et là aussi, ils ont eu la chance que certains décors puissent rester en place, notamment pour les petits meurtres.
Eh bien, gardez la parole, puisque nous allons parler télévision grâce à vous. D'abord, condamner ce week-end les audiences de Koh-Lanta et The Voice.
Eh bien, oh ben, rien de comparable entre les deux. Vendredi, Koh-Lanta, c'est la grande gagnante du confinement côté télé. On le sait, avec Tous en cuisine et Top Chef. La preuve avec la finale, vendredi, suivie par 6 900 000 fidèles, 48% du public féminin, mais surtout 61% des 15-24 ans et 62% des 4-14 ans présents devant le poste. C'est pas la même musique samedi avec la demi-finale de The Voice en semi-direct. Le programme est largement devancé par les mystères de la basilique sur la 3.
Ah oui.
4,5 millions contre moins de 3 900 000. Alors, je suis tout de même contente parce que j'ai mes 4 favoris en finale, on en reparlera et je répondrai au fil des jours à partir de demain aux questions que vous m'avez posées une par jour, vous ne perdez rien pour attendre.
Bon, On en vient au programme, beaucoup de films ce soir.
Oui, et Tatiège évidemment de Costa Gavras, pardon, oui. Avec Yves Montand
on
sur la scène.
Baby
Driver sur C8. De l'autre côté, du périph' avec Laurent Lafitte et Omar Sy sur W9. Mais alors moi j'avoue, un petit fait pour deux comédies totalement différentes. Camping d'Anthony Ente sur TF1, moi j'adore, qu'est-ce que vous voulez, je suis jamais au camping, mais j'aime beaucoup. Et Forrest Gump sur M6. Un simple d'esprit, Tom Hanks va être associé à 4 décennies de grands événements comme la guerre du Vietnam ou le Watergate. Grâce à ses capacités de coureur à pied, le voilà traversant à la vitesse de l'éclair un terrain de football américain.
Qui c'est celui-là ?
Celui-là, c'est Forrest Gump. C'est juste l'idiot du village.
Qui n'était pas le premier choix du réalisateur, a eu l'Oscar du meilleur acteur. Et sur la 2, j'aimerais tout de même que vous donniez sa chance à Major Crimes, une formidable série policière dans laquelle des flics chevronnés, dirigés par une femme, doivent résoudre des crimes majeurs. Major Crimes. C'est un formidable feuilleton, totalement sacrifié par l'absence de résumé. C'est en effet complexe côté contexte, d'où l'impossibilité de capter et retenir un nouveau public si on ne rappelle pas les faits d'une saison sur l'autre, comme France 2 ne le fait pas. Cette série n'a pas l'audience qu'elle mérite, on en reparlera.
Et vous avez 45 secondes pour nous parler de l'Exode que vous nous recommandez sur la 3.
Oui, alors un doc passionnant sur cet épisode montrant près de 10 millions de Français partis sur les routes ayant quitté du jour au lendemain leur maison et leur travail pour fuir l'avancée allemande en mai et juin 40 sans retour, bientôt sans nourriture et sans eau. Ils seront en masse victimes de raids aériens. On voit par exemple une famille creuser le sol à la main pour enterrer leur fille. Sont passionnants les témoignages et les images du quotidien d'alors, et moi qui croyais bien connaître ces périodes, oui, j'ai appris beaucoup de choses. Il y a notamment une scène bouleversante où on voit les bébés dont les parents ont été tués, qu'ils ne peuvent pas parler, donc ils n'ont plus d'identité. Alors on parle pour eux à la radio.
Comme chaque mercredi à pareille heure, nous allons une fois de plus vous présenter notre émission à la recherche des enfants perdus.
Voici le cas de l'enfant recherché numéro 30. Il s'agit du petit Serge de l'Aune, âgé de 20 jours.
Tout est dit en quelques secondes. En plus, ils seront traités de traîtres et de fuyards, ce que j'ignorais totalement pour avoir déserté leur maison. C'est vraiment un très intéressant document.
Merci Isabelle Morini-Bosque. On retrouve Julien Courbet dans un instant. Faire. 9h30, merci à toute l'équipe de Laissez-vous tenter et bienvenue à Julien Courbet.
Mais Yves, vous auriez pu me laisser en retard. mais je vous assure, parce que maintenant, en plus,
pas
je sais...
de la maison. Hein.
Mais non, ah bon, non. Mais voilà. Je sais comment combler maintenant ces quelques minutes, il n'y a aucun souci. Hein.
Et bravo pour Capital, hein. Pas mal
chaque
du
matin,
tout.
Chaque matin, je démarre mon émission en retard. Ah. Ça devait être à 30, souvent, c'est à 33. Mais je m'en fous pas mal aujourd'hui. 4-3 minutes, ça me suffit. Je vous le dis. Je m'en vais voir les petites femmes. Alors, on n'est pas du tout au rythme. Oh, oui, bah oui, parce que. Alors, Isabelle Morini-Bosse voulait m'annoncer le score de Capital que je ne connais pas en plus.
Eh bien, écoute, près de 2 800 000, c'est pas mal du tout.
2 800 000
Bah oui.
Oui, c'est pas mal du tout, effectivement. Oui, bon.